En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Naissance, émergence et manifestation de la conscience, c'est le thème des conférences retransmises ici sur Canal Académie, des interventions qui se déroulaient dans le cadre de colloques récurrents offrant un regard interdisciplinaire sur l'homme contemporain. Nous vous proposons ici de retrouver la communication d'Alain Prochuan, morphogénéticien, professeur au Collège de France et membre de l'Académie des sciences. Il nous propose ici de s'intéresser à l'évolution particulière de Sapiens en comparaison avec notre cousin, le chimpanzé, Alain Prochuan.
Je vais vous parler de la conscience du point de vue de quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, mais c'est souvent mon cas. Et vous allez voir que ce que je vais vous raconter est quand même relativement proche de ce qui vient d'être dit. Donc je vais vous parler d'évolution de Sapiens en essayant de vous faire sentir, comme le conférencier précédent, à quel point il y a une distance considérable entre les autres primates et nous-mêmes. Ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas des primates, bien entendu. Homo habilis est arrivé il y a à peu près 1 600 000 ans, c'est-à-dire que c'est extrêmement récent, c'est-à-dire que le développement des hominidés, leur évolution, est quelque chose d'extraordinairement récent dans l'histoire de la vie sur Terre, qui est quand même plus de 3 milliards d'années. Et qu'il y a une très grosse différence entre un cerveau de souris sur lequel je travaille et un cerveau humain. La différence de taille est tout à fait considérable, mais ce n'est pas uniquement la taille, c'est aussi que les compartiments qui sont dévolus à des fonctions cognitives, et en particulier les fonctions linguistiques et les fonctions qui sont dans le cortex préfrontal, eh bien, ces régions sont très très grandes. C'est-à-dire que non seulement nous avons augmenté la taille de notre cerveau, mais nous avons déplacé les bords à l'intérieur du cerveau, c'est-à-dire que nous donnons plus d'importance à la cognition, par exemple, qu'à la vision ou à l'olfaction. Dans un appartement, par exemple, vous pouvez augmenter la taille de l'appartement, mais vous pouvez aussi réduire la taille de la cuisine et augmenter celle du salon. Donc, c'est un peu ce que Sapiens a fait, évidemment, par rapport à la souris, mais encore plus par rapport aux autres primates avec qui nous avons un lien d'évolution. Évidemment, je suis matérialiste et darwinien, donc ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas un lien d'évolution très proche avec nos collègues et cousins chimpanzés. Il y a de toute évidence un lien de linéarité entre la taille du corps et la taille du cerveau, pour la bonne raison qu'un cerveau, c'est fait pour bouger. C'est fait pour sentir, c'est fait pour bouger en fonction des enseignements qui viennent de l'extérieur. Dès qu'on rentre dans la lignée des hominidés, eh bien, on monte, on sort de cette linéarité. Et que nous devrions, nous, sapiens, si nous avions un cerveau de chimpanzé, si nous étions comme des chimpanzés, avoir un cerveau d'environ 500 cm3. Ce qui veut dire que nous avons, je dis souvent, 900 cm3 de trop. Sur 900 cm3, vous allez voir qu'il nous coûte très très cher sur le plan énergétique. Donc il y a un vrai avantage évolutif, évidemment, à avoir un cerveau de cette taille. Et ces 900 cm3 de trop ne sont pas placés n'importe où. Ils sont placés justement dans ces régions qui ont à voir avec ce qui fait le propre de Sapiens. Et qui fait que si nous écrivons des traités sur les singes n'écrivent pas des traités sur nous, comme cela nous a été rappelé avec grande justesse il y a un instant. Donc c'est séparé des chimpanzés il y a environ 7 millions d'années. C'est-à-dire 14 millions, parce qu'il faut remonter jusqu'au point de divergence pour redescendre de l'autre côté, donc il y a quand même 14 millions de différences entre nous. Et je vais juste vous parler aujourd'hui un petit peu de génétique. Je ne vais pas vous parler d'une approche très globale, parce qu'elle va pointer vers quelque chose qui est le coût énergétique d'avoir un cerveau comme le nôtre. Et ce qui a à voir avec la conscience, vous allez le voir, bien entendu, puisque c'est un exercice obligé. Dans les patins à glace, il y a les figures libres et il y a les figures obligées. Là, je suis dans les figures obligées, ce qui n'est pas en danger, bien entendu. Alors, évidemment, nous avons les mêmes gènes que les chimpanzés, mais nous n'avons pas les mêmes gènes qui fonctionnent au même moment, ensemble, et surtout, ce qui change, c'est pas tellement les gènes. On dit toujours, on a les mêmes gènes que les chimpanzés, que les mouches, que les canards, tout ça. Mais ce qui est important, c'est pas le gène, c'est le moment où il s'exprime, le niveau auquel il s'exprime, et le temps pendant lequel il s'exprime. Et ça, c'est extraordinairement différent, parce que ce sont les régions régulatrices qui déterminent justement ces co-expressions génétiques, et en même temps ces niveaux et ces durées, qui font que, d'un coup, il y a eu cette espèce de sortie de la nature de Sapiens. Parce que quand vous voyez qu'on est à 900 cm de trop, c'est d'une certaine façon, nous sommes à nature par nature. C'est ça qu'on devrait dire, d'une certaine façon. Donc là, c'est des gènes qui sont co-régulés. Ces gènes qui sont ainsi modifiés, et qui apparaissent de façon extraordinaire chez Sapiens, eh bien, il y a deux types de gènes. Il y a des gènes qui sont impliqués, évidemment, dans le fonctionnement synaptique. On a plus de synapses, on a plus de neurones, et il faut faire plus de molécules qui sont impliquées dans la libération des vésicules, comment les cellules se parlent dans le système nerveux, enfin des choses comme ça. Mais il y a un autre bloc, et qui est probablement le bloc le plus important, c'est le bloc métabolique. C'est-à-dire que Sapiens a un métabolisme énergétique absolument unique dans toutes les espèces vivantes. Par exemple, nous sommes les seuls, et c'est vrai évidemment pour le cerveau, mais c'est vrai aussi pour toutes les autres fonctions du corps, et en particulier, nous sommes les seuls animaux qui pouvons courir un marathon par 40 degrés. C'est-à-dire que dans les savanes primitives, là d'où viennent nos ancêtres, un sapiens peut très bien rattraper une antilope à la course, pas dans l'instantané, mais en courant suffisamment longtemps pour que l'antilope soit absolument épuisée, qu'il n'ait plus qu'à la ramasser quasiment, à cause de cette endurance énergétique. D'ailleurs, on n'a pas de poils, donc c'est plus pratique pour se refroidir. Et en même temps, un système métabolique qui est unique. Donc, il est unique et il explique pourquoi nous pouvons entretenir ces 900 cm3 de trop. Parce que vous devez savoir que les 2% du poids du corps que constitue le cerveau utilisent 20% de notre énergie quotidienne, ce qui est énorme. Alors, je ne rentre pas dans les détails de ces gènes de métabolisme, mais il y a une chose qui était très importante pour nous, c'est d'apprendre à faire la cuisine. Parce que nous mangeons des aliments cuits. Si nous mangeons des aliments crus, avec le cerveau que nous avons, nous devrions manger 10 heures par jour. Évidemment, ce n'est pas forcément désagréable, mais il y a d'autres choses agréables à faire. Par exemple, venir à la Fondation Del Duca, rencontrer des collègues qu'on n'a pas la chance de rencontrer tous les jours. On peut manger avec eux, notez, mais de la viande crue et des brindilles crues tous les jours, même avec les meilleurs collègues, pendant 10 heures, je pense qu'on pourrait facilement se lasser. Et donc, le contenu calorifique et nutritif d'un aliment cuit est supérieur à celui d'un aliment cru. Il permet d'accumuler toute cette énergie par la nourriture sans y passer plus, disons, de 1 ou 2 heures par jour. Ce qui laisse du temps libre pour l'instinct grégaire, les conversations entre amis et faire des choses que sinon on n'aurait pas le temps de faire si on passait son temps uniquement à manger et à se reproduire. Donc, l'énergie, d'où vient-elle dans un cortex ? Alors, elle vient du système nerveux essentiellement, évidemment, mais elle vient d'une classe de cellules qu'on appelle des cellules gliales. Vous savez que dans notre cerveau, nous n'avons qu'entre 5 et 10% de neurones, même si ça prend beaucoup de place à cause des connexions, des fibres et tout ça. Mais l'essentiel du cerveau, c'est des vaisseaux sanguins, des macrophages, système immunitaire, des cellules gliales, astrocytes, oligodendrocytes, et il y a assez peu de neurones fondamentalement. Normalement, chez les singes, vous avez un rapport à peu près égal entre le nombre de neurones et le nombre de glies. Chez Sapiens, vous avez plus de glies que chez un chimpanzé. C'est que ce rapport. Mais parce que, en fait, les astrocytes. Parce que. Une des fonctions possibles, c'est que les astrocytes, qui est une sous-catégorie de ces cellules non neurales qu'on a dans le cerveau, apportent l'énergie au système. Vous voyez que nous avons un rapport de 1,65 par rapport à 1,20 chez Pan Troglodytes, notre plus proche cousin. Mais en même temps, ils ne sont pas mis partout. Par exemple, si vous allez dans le cortex préfrontal ou dans les régions cognitives, ce rapport est bien plus élevé. Donc, il est fourni aux neurones sous une forme d'un métabolite très particulier qu'on appelle le lactate. C'est un travail qui a été fait par mon collègue Magistretti et Mme Alberini à New York, et Magistretti à l'EPFL. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que le lactate est donc fait par les astrocytes. Il y a le glucose qui vient du sang, qui passe dans les astrocytes. Là, vous avez toute la voie métabolique du glycogène, enfin, synthèse du glycogène. Et puis, c'est le lactate qui passe dans les neurones et qui est la source d'énergie essentielle des neurones. Donc, si vous n'avez pas les astrocytes, vous n'avez pas le lactate. Vous n'avez pas le lactate, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez pas de capacité d'apprentissage. Là, vous avez une petite souris, là, vous savez, les souris, vous les mettez dans un compartiment noir, blanc. Elles aiment le noir. Elles vont dans le noir. Elles vont dans le noir, vous donnez un choc électrique. Gentil, hein. Normalement, quelques temps après, vous la remettez dans le compartiment blanc. Elle va hésiter un peu, elle est dans le noir. Logique. Mais si vous avez supprimé soit le lactate, soit bloqué le canal qui permet le passage du lactate vers les neurones, pendant que vous faites la manip, elle ne va rien apprendre du tout. Elle va rejoindre, bang, de nouveau, elle va prendre un petit coup dans les pattes. Donc, ça vous montre que dans ce fonctionnement d'apprentissage, et même ce fonctionnement synaptique, la cellule non neuronale est extraordinairement importante, puisque c'est elle qui apporte l'énergie et qui permet à cette cellule d'apprendre. Donc, maintenant, passer à autre chose, avant de revenir un petit peu au métabolisme énergétique, c'est à la question de l'apprentissage, justement. Alors, la plupart des étudiants s'imaginent qu'on est intelligent jusqu'à 17 ans ou 18 ans, ça dépend de l'âge de l'étudiant, et qu'on devient bête après. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, François. On est bête jusqu'à un certain âge, on est intelligent pendant une courte période et on redevient bête après, voilà. Et cette période pendant laquelle on est intelligent s'appelle la période critique, pour des raisons que vous pouvez imaginer. Alors, ce n'est pas si dur que ça, en fait. Ça continue un peu après. Mais pour chaque modalité d'apprentissage, c'est-à-dire, en fait, que le cortex, le cerveau, se construit en fonction de l'environnement, hein, d'où l'importance, justement, des vies sociales. Eh bien, mon collègue précédent disait, au fond, le cerveau ne sécrète pas la pensée comme le foie sécrète la bile. C'est un peu ça que vous avez dit. Mais il a bien raison. D'abord parce que la pensée n'est pas une substance. C'est un rapport entre l'individu et son milieu, voire entre une espèce et son milieu. Et par ailleurs, le milieu sécrète le cerveau. Et il y a peut-être même des amblyopes dans cette salle. Est-ce qu'il y a un amblyope dans la salle ? Je suis sûr, il y a toujours un amblyope. Il y a 3% d'amblyope. Ben voilà. Donc, c'est pas une maladie grave. J'ai une amie très chère qui était amblyope, qui est tout à fait charmante, donc c'est pas du tout le problème. Mais c'est un cas typique qui est pris comme modèle expérimental pour montrer comment le cerveau se construit en fonction de l'information extérieure. Si vous avez un enfant qui a une cataracte et que vous n'opérez pas la cataracte avant l'âge de 4-5 ans, eh bien, il n'apprendra pas la vision binoculaire. Parce que la vision binoculaire s'apprend, il faut voir avec les deux yeux pour que le cerveau apprenne la vision binoculaire. Il apprend la vision binoculaire parce que vous avez des terminaisons qui arrivent au niveau du cortex, dans une zone qu'on appelle le cortex binoculaire, et qui vient des deux yeux. Et si vous fermez un œil, ou si vous avez une cataracte, ou si il louche que l'œil ne voit pas en face, eh bien, les terminaisons qui proviennent de l'œil resté ouvert vont envahir pendant une période de plasticité qu'on appelle la période critique, c'est la période qui est plastique, justement. Pendant cette période de plasticité, ces fibres-là vont envahir tous les neurones dans la couche 3-4 du cortex visuel, binoculaire, et l'autre, eh bien, il sera là, la caméra sera parfaite, l'œil sera parfait, mais on peut le remettre même à la bonne place, tout va bien, mais il ne sera pas connecté, si vous voulez, au système nerveux, parce que simplement, les informations ne sont pas passées au bon moment pendant cette période où le cerveau est cortex pour l'apprentissage de la vision binoculaire. Mais n'importe lequel d'entre nous qui a essayé d'apprendre une langue étrangère après l'âge de 25 ans, ou un instrument du violon ou après l'âge de 12-13 ans, sait très bien qu'il y a des périodes où on apprend plus facilement qu'à d'autres. Donc cette histoire de vision binoculaire, c'est juste un exemple d'une modalité extraordinairement importante de la façon dont un cerveau est capable de se modifier pendant ces périodes qu'on appelle périodes critiques pour certaines modalités sensorielles, motrices, affectives, sociales aussi. Parce que le cortex est extraordinairement uniforme et est fabriqué pratiquement de la même façon depuis le cortex préfrontal, même dorsolatéral préfrontal, jusqu'aux régions les moins intéressantes, par exemple le système visuel, dont nous avons abandonné quand même pas mal par rapport à nos collègues chimpanzés qui sont bien meilleurs que nous. Ils sont visuellement plus intelligents que nous, si j'ose dire. Donc, cette période pendant laquelle le cerveau est plastique correspond à la maturation d'une classe de neurones qu'on appelle des neurones parvalbumines et qui sont dans les couches 3 et 4 du cortex. Ce sont des petits neurones qu'on appelle petits neurones à décharge rapide fabriquant de la parvalbumine. Vous vous en fichez. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont à décharge rapide. C'est-à-dire que ce sont des petits neurones qui contrôlent une centaine de neurones pyramidaux. Ils sont inhibiteurs. Quand ils maturent, l'inhibition augmente dans le cortex. Le cortex est essentiellement inhibiteur. Donc on empêche les sorties par les voies pyramidales, qui sont ces neurones qui envoient, qui sont glutamatergiques, qui sont les grands neurones pyramidaux. Donc ces petits neurones à parvalbumine, fast spiking, ils déchargent extrêmement rapidement, ils maturent pendant la plasticité, et quand ils sont entièrement mûrs, la plasticité s'arrête. Donc j'ouvre la plasticité quand je commence à maturer, je la ferme quand je suis entièrement mûr. Et là, je suis capable de décharger quasiment 80, 100, 200 Hz, qui est énorme pour un neurone, et ce qui est extrêmement coûteux en économie. C'est-à-dire que c'est extrêmement cher, parce que quand vous déchargez comme ça à 80 Hz, eh bien vous libérez des ions, il faut recapturer les ions, et pour recapturer les ions, il faut ce qu'on appelle des ATPA, sodium potassium, et ça, ça coûte extraordinairement cher en énergie, c'est-à-dire qu'il faut énormément d'énergie. Ce sont des neurones qui sont horriblement chers. Il y en a d'autres, c'est les neurones qui ont des longues projections. Par exemple, les neurones dopaminergiques, ceux qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson, ils sont aussi très chers parce qu'ils innervent tout le cortex, leur petit corps cellulaire là, noyé au milieu de mésencéphale. Il faut qu'ils entretiennent cette arborisation. Et ça, ça a à voir, évidemment, avec des maladies qui sont des maladies de la cognition et des maladies neurodégénératives. Parce qu'il faut comprendre que notre cerveau est en permanence au bord de la crise énergétique. Les chimpanzés mettent 10% de leur énergie dans leur cerveau. Nous, nous en mettons 20%. Nous avons un cerveau 4 fois plus gros. Pour être l'égal des chimpanzés, il faudrait qu'on mette 40% de notre énergie dans le cerveau. Donc, ces neurones sont toujours, d'une certaine façon, au bord de l'asphyxie. Et c'est pour ça que beaucoup des maladies, à commencer par les maladies cognitives, sont d'abord des maladies métaboliques. Donc, c'est au moment de la maturation de ces neurones parvalbumines, donc ces mighty petits neurones très courageux, eh bien, quels sont les gènes qui sont le plus exprimés? Ils sont sur cette étude-là, c'est des gènes du métabolisme énergétique. C'est-à-dire qu'au moment de la période critique, qui est entre le jour 20 de la vie postnatale et 40 de la vie postnatale pour la vision binoculaire chez la souris, si on purifie ces neurones et qu'on regarde quels sont les gènes qui sont exprimés pendant cette période, ce sont essentiellement des gènes du métabolisme énergétique. Et quand je vous dis 80 Hz, eh bien, ça vous rappelle les EEG, quoi, les oscillations. En fait, ce sont ce qu'on appelle des bandes gamma qui permettent des oscillations extrêmement rapides dans le cortex et qu'on peut très bien mesurer par EEG. Et ces oscillations à 80 Hz, en gros, disons entre 30 et 100 Hz dans le cortex, elles sont liées justement à l'interaction entre les neurones GABAergiques dont je viens de vous parler, pour l'essentiel, et les neurones glutamatergiques. C'est-à-dire que les neurones glutamatergiques, eux, ils tapent tout le temps. Disons, ils font du 3 Hz. Donc c'est comme si c'était tout le temps actif. Et là, vous avez ces petits bonshommes qui viennent et qui les interrompent tout le temps, parce qu'ils les inhibent 80 fois par seconde. Et donc ça, ça fait des oscillations. Ce qu'on appelle bande gamma en électrophysiologie. Je vois que M. Buzer me regarde, il s'est approché, il est devenu électrophysiologiste, il y a quelque chose qui ne va pas. M. Buzer, corrigez-moi si je dis des bêtises. Donc maintenant, si vous regardez le développement d'un sapiens, et vous lui donnez ce qu'on appelle des figures de Mounet, c'est-à-dire des figures comme ça qui sont extrêmement contrastées en noir et blanc, il faut un certain moment pour voir une tête d'homme. C'est-à-dire que ça prend environ 200 millisecondes pour que le cortex visuel voit et que le cortex cognitif assemble tout ça et dit « Ah, c'est un sapiens ». Et vous voyez que le temps qui est mis pour comprendre diminue quand on mature. C'est-à-dire si vous êtes un jeune enfant, il faut, je ne sais pas, 1000 millisecondes. Et puis quand vous êtes un jeune adolescent, en 500 millisecondes, vous avez été capable d'assembler les traits pour dire « ça, c'est une figure humaine ». Et puis à l'adolescence tardive, ça remonte, on perd. Et chez l'adulte, on regagne. On peut mesurer le pouvoir spectral des bandes gamma et on voit qu'en gris, c'est l'adolescent tardif. C'est-à-dire que dans le cortex préfrontal, chez l'adolescent tardif, il y a une période où ça se déconstruit. Donc il y a une période critique dans l'adolescent tardif au niveau du cortex préfrontal. Et c'est très intéressant parce que, évidemment, c'est quelque chose qui suit, quelque chose qu'on a tous éprouvé, c'est-à-dire l'arrivée des hormones d'une certaine façon. C'est-à-dire que le monde change. Il y a un moment où, tardivement, le monde change parce que le monde se sexualise, parce que les rapports sociaux sont changés, on ne se voit plus de la même façon, on ne voit plus les gens de la même façon, les gens ne vous voient plus de la même façon. Et si on passe mal cette période critique, il y a des problèmes qui se passent. C'est pas par hasard que les grandes maladies psychiatriques se révèlent dans l'adolescence tardive et tout début de l'âge adulte. C'est pour certains neurobiologistes, pour certains psychiatres, une maladie neurodéveloppementale qui a à voir avec un problème dans les périodes critiques. Et pour ces neurobiologistes, c'est essentiellement des maladies de la cognition avant d'être autre chose que, par exemple, maladie de la split personnalité, comme on dit, des trucs comme ça. Essentiellement des maladies cognitives. Le rapport excitation-inhibition, vous avez l'excitation qui descend, l'inhibition qui monte, se fait dans le cortex préfrontal entre 15 ans et 20 années, au moment où vous avez cette maturation de vos systèmes inhibiteurs. C'est exactement pour que le système visuel, mais ce n'est pas dans le cortex visuel, c'est dans le cortex frontal. Et à ce moment-là, vous avez une maturation de ces systèmes inhibiteurs qui correspond à la maturation de ces petits neurones par valvulumine. Donc, on étudie le système visuel, mais ça peut être un modèle pour la compréhension de comment se construisent les systèmes cognitifs dans un cortex de sapiens. Alors, je parlais de métabolisme. Métabolisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut quand même apporter de l'énergie, il faut que le sang arrive et c'est pour ça que dans les régions, vous avez une corrélation entre l'intensité des bandes gamma, il faut absolument dépenser beaucoup d'énergie et ce qu'on appelle le BOLD, c'est-à-dire l'imagerie de l'arrivée de l'oxygène au niveau des neurones. Quand je disais il y a plus de vaisseaux sanguins que de neurones, c'est pas par hasard, parce que les vaisseaux sanguins, apporter de l'énergie à un cerveau, c'est extrêmement important. Vous mettez des neurones sans énergie, ils meurent. Ces hautes fréquences, elles sont importantes, ce qu'on appelle les local field potentials. C'est un truc extrêmement important parce qu'ils sont dans différentes régions du cortex, et quand ils sont en phase, ou même quand ils ne sont pas en phase, ils permettent d'intégrer le fonctionnement global d'un système nerveux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une forme de synchronisation par moment, de synchronisation de l'activité cérébrale qui est liée justement à la synchronisation des bandes gamma entre différentes régions du cortex, mais aussi des noyaux sous-corticaux. Donc, c'est des systèmes qui peuvent vous expliquer comment on peut synchroniser. Ben, pour synchroniser, il faut avoir des systèmes qui sont diffus et qui vont aller taper à différentes régions du cortex, soit qui viennent de noyaux cérébraux du genre dopamine, dans la substance noire, sérotonine, noradrénaline, mais aussi, et c'est une nouveauté, des choses qui viennent du plexus choroïde. Alors, je reviens sur mes périodes critiques. Nous, on travaille beaucoup sur les périodes critiques dans le système visuel, bien entendu, vous l'avez compris, chez la souris, vous l'avez compris aussi, donc je ne suis pas médecin et je ne travaille pas sur sapiens, ni même sur les chimpanzés. Donc. La souris est un bon modèle du point de vue de l'étude des périodes critiques, dont j'espère vous êtes maintenant convaincus qu'elles ont à voir avec les phénomènes de cognition. Donc, ce que le laboratoire que j'ai la chance de diriger a eu la chance, ou la malchance d'ailleurs pendant longtemps, de découvrir, c'est un nouveau mode de signalisation auquel François Gros a fait allusion, qui est en fait le passage de facteurs de transcription d'une cellule à une autre, de facteurs de transcription d'une certaines familles qu'on appelle des familles homéodomaines. On s'en fiche un petit peu, mais il se trouve que quand je regarde la maturation de mes neurones par valvulumine, cette maturation qui ouvre la période de plasticité et qui la ferme quelques jours plus tard, eh bien, ça s'accompagne de la présence de cette protéine OTX2 qui est un de ces facteurs de transcription dans ces neurones par valvulumine. Il se trouve que ce facteur de transcription n'est pas fait dans le cortex, il vient de l'extérieur. Il vient de différentes régions, je vous dirai exactement laquelle plus tard, mais n'est pas fait par les neurones. Donc, il faut que le facteur de transcription rentre dans la cellule au moment de l'activité visuelle pour que la maturation commence. Et si j'empêche ce facteur d'arriver, je n'ai jamais de maturation de mes neurones. Et si je mets le facteur plus tôt, j'ouvre la période critique plus tôt. Donc, en fait, cette protéine qui vient d'extérieur est nécessaire et suffisante pour l'ouverture AP20 et la fermeture AP40 d'une période de plasticité corticale dans le système visuel binoculaire. C'est ça l'idée. Donc je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que pour que la protéine rentre dans les cellules, il faut qu'elle y trouve un récepteur. Et ce récepteur, c'est un sucre. Voilà. Les biologistes s'intéressent très peu au sucre parce que c'est trop difficile. Ils s'intéressent ni au gras ni au sucré, qui sont les deux molécules les plus compliquées à travailler. Mais c'est ce qu'il y a de meilleur, comme vous le savez, même pour le système nerveux. Et donc, ces sucres complexes qui sont à la surface des cellules, ils ont des codes extraordinairement complexes, c'est-à-dire qu'il y a une diversité de séquences très importante. Et à la surface de ces neurones parvoglumines, il y a un code sucre qui permet la reconnaissance de cette protéine OTX2, dont je vous dirai d'où elle vient dans un moment. Dans la protéine, il y a une séquence qui permet de reconnaître le sucre. C'est une séquence ORCA, Q et R, vous en fichez un peu. C'est une séquence basique quand même. Et cette séquence, elle est vraiment importante parce que si je mute, par exemple, le doublet RK, qui est une arginine et une lysine, qui sont deux acides aminés basiques qui se transforment en deux alanines, eh bien, ma protéine ne reconnaît plus spécifiquement les neurones parvoglumines. Alors, vous pouvez prendre ce peptide RK et vous pouvez l'infuser dans un cortex. Et comme il va reconnaître les sucres, il va bloquer l'arrivée d'OTX2 parce qu'il va rentrer en compétition avec OTX2 qui va trouver le site occupé par ce petit peptide qui est arrivé avant. Et si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? L'OTX2 endogène, je ne le vois plus, beaucoup moins. Si je prends un peptide qui est brouillé, c'est-à-dire les mêmes acides aminés mais une séquence différente, ça ne fait rien du tout. Et alors, si je démature mes neurones, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je peux rouvrir la plasticité? C'est-à-dire, est-ce que cette souris qui était en biop, je peux lui rendre l'acuité visuelle? Oui, je peux. C'est-à-dire que maintenant, je prends une souris, je lui ferme un œil pendant la période critique, je rouvre après la période critique et c'est fini. Elle est aveugle de cet œil. Elle a une acuité visuelle très basse. Elle n'est pas aveugle, mais une acuité visuelle très basse. Et maintenant, je bloque le passage de TX2 chez l'adulte. La souris regarde dans la cage et au bout de 15 jours, elle a récupéré son acuité visuelle. Donc, ça veut dire que la plasticité est l'état de base du système. On bloque cette plasticité, mais qu'il y a des moyens de la rouvrir dans le système visuel, bien entendu. Et je peux aussi la rouvrir en bloquant, en recombinant TX2, c'est-à-dire en supprimant dans la source principale de TX2, qui est en fait le plexus choroïde. Et là, de nouveau, je peux rouvrir la plasticité, je peux prendre une souris, je la rends en bliop au cours du développement, et puis je lui restitue sa vision binoculaire chez l'adulte. Je peux faire le contraire, je peux prendre une souris normale, je diminue la quantité de protéines de TX2 chez l'adulte, je lui ferme un œil, elle devient en bliop. C'est pas sympa, mais ça marche. Alors, ce qui est amusant dans cette affaire, c'est que, bien entendu, il n'y a pas que le cortex visuel, mais tout le cortex a des neurones parvoglumines, et dans la mesure où la source, une des sources de TX2 est une source ubiquitaire qui est le plexus choroïde, en fait, nous pouvons penser, nous pouvons proposer, nous pouvons espérer que tous les neurones parvoglumines ont besoin de cette source choroïde pour accéder à la maturation. Ils ne maturent pas tous en même temps, bien entendu, parce que c'est au début, c'est activité dépendante, donc il faut un premier signal pour que les sucres arrivent à la surface et capturent la protéine. Mais cela veut dire que le processus qu'on peut voir dans les neurones du système visuel pourrait, si on a de la chance, être élargi à d'autres fonctions cérébrales, en particulier à celles qui nous intéressent, celles justement qui ont à voir avec l'installation des problèmes cognitifs. Je ne vous parle pas de conscience, parce que au fond, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la cognition d'une certaine façon. Pourquoi nous, sapiens, on a une cognition tellement supérieure à celle des singes, sauf pour ceux qui pensent que les singes sont aussi intelligents que nous. Donc, l'idée, c'est est-ce qu'on peut réverser des ordres neurodéveloppementaux quand ils affectent les fonctions cognitives chez l'adulte, évidemment. C'est une partie de travaux qu'on essaye de faire dans mon laboratoire. Donc, la dernière chose que je voudrais faire, c'est revenir sur le problème de l'énergie. Quand vous faites des oscillations de type gamma, c'est-à-dire que vous maturez vos neurones parvoglumines, parce que tout ça, c'est finalement la maturation de ces interneurones, il y en a d'autres aussi, la maturation de ces interneurones met en route ces oscillations extrêmement rapides qui sont extrêmement coûteuses en énergie. Par exemple, dans une région qu'on appelle l'hippocampe, qui est une région très importante, vous avez aussi des interactions, c'est un morceau de cortex, c'est du cortex à 3 couches d'une certaine façon, c'est un cortex qui n'est pas le cortex à 6 couches, mais on a aussi un cortex à 3 couches dans les régions olfactives, donc avoir 3 couches comme les oiseaux, c'est pas dramatique, même si ce sont des oiseaux, mais donc c'est un cortex à 3 couches, et il y a aussi dans cette région d'hippocampe, une région très importante pour l'apprentissage, eh bien, des interactions entre neurones parvoglumines, les petits gars inhibiteurs qui tapent très vite, et les neurones glutamatergiques, qui sont les grands un peu lents, qui se laissent un peu cogner comme ça, parvoglumine, eh bien, vous avez dans les régions où vous avez des oscillations gamma, une grande expression des gènes du complexe 1 mitochondrial, qui est le premier complexe dans la fabrique de l'ATP par la mitochondrie. Donc, en particulier des gènes qu'on appelle NDFS1, NDFS3, il y a pas mal de gènes du complexe 1 qui sont extrêmement importants pour réguler la formation d'énergie. C'est ceux dont on voit, je l'ai dit, quand les neurones parvoglumines maturent, on voit tous ces gènes qui arrivent, qui sont des gènes du métabolisme énergétique. Eh bien, il y a en particulier ceux du complexe 1 mitochondrial. Donc là, ça va me permettre de boucler sur ces facteurs de transcription. Il se trouve que ces facteurs de transcription auxquels je suis attaché depuis maintenant 1990, en fait, c'est quand on a commencé à travailler là-dessus, eh bien, ne sont pas exprimés uniquement au cours du développement, ils sont exprimés aussi chez l'adulte. Et en particulier, il y a un ici qui s'appelle NGRELD, qui est un facteur de transcription très sympathique, qui est exprimé dans les neurones dopaminergiques de la substance noire, ceux qui dégénèrent, je vous l'ai dit, dans la maladie de Parkinson. Si je retire, il y a 4 gènes Engel. Enfin, il y en a 2, mais il y a 2 allèles, ça en fait 4. N1, N1, N2, N2. Il y a 2 chromosomes et les 2 chromosomes sont actifs, il n'y a pas d'imprinting. Si je supprime un gène sur 4, j'ai une dégénérescence progressive des neurones dopaminergiques de la substance noire, comme dans la maladie de Parkinson, chez la souris. Hein. Donc, comme ce sont des protéines qui rentrent dans les cellules, c'est facile, je prends mon mutant et je rajoute la protéine en l'infusant dans le cerveau, elle rentre dans les neurones et je sauve mes neurones. Ça, c'est sympa, mais c'est de la plomberie. Vous retirez un truc, vous le rajoutez, c'est pas étonnant que ça marche comme ça. Vous pouvez aussi prendre des modèles de maladie de Parkinson, il y en a animaux, et la protéine protège aussi. Mais ce n'est pas là-dessus que je veux insister, ce que je veux vous montrer, c'est que ça protège, parce que ce facteur de transcription n'est pas uniquement un facteur qui est un facteur de transcription, c'est-à-dire qui va de l'ADN à l'ARN dans la chaîne d'expression des génomes, c'est aussi une protéine qui régule la traduction des messagers. Or, les messagers ne sont pas toujours traduits, c'est-à-dire qu'on peut avoir les messagers qui se baladent dans une cellule, et puis il faut un signal pour qu'ils fassent la protéine. Il y a une classe de messagers de ce type qui est très importante, c'est les messagers mitochondriaux. Vous savez que les mitochondries sont d'anciennes bactéries et qu'au fur de l'évolution, elles ont donné leur génome au noyau. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, sur les quelques milliers de protéines mitochondriales, il n'y en a plus que 13 qui sont synthétisées, qui sont transcrites au niveau génomique par la mitochondrie. Tous les autres sont faits par le noyau. Et quand la mitochondrie se promène, elle se promène avec les messagers mitochondriaux sur le dos que le noyau lui a donné. Et donc, la mitochondrie va dans la synapse, elle va dans les cônes de croissance, tout ce que vous voulez, mais il faut un signal pour traduire ces protéines. Ça, c'était la grande surprise qu'on a eue il y a 2-3 ans dans le laboratoire, c'est quand on a regardé quels étaient les messagers qui étaient traduits quand on mettait la protéine Engel dans ces neurones, c'est pour 60% des messagers mitochondriaux. Une minute après que vous ayez rajouté votre protéine sur vos cellules, vous avez un boost d'ATP. Et ça, c'est sympa parce que, d'abord, ça peut permettre de sauver les neurones dans 3 modèles animaux de maladie de Parkinson. Mais c'est aussi vrai pour OTX2, la protéine dont je vous dis qu'elle est impliquée dans la maturation des neurones barbalbumine. C'est-à-dire que cette protéine, OTX2, dans ce système du cortex visuel binoculaire, a le double intérêt, à la fois d'entraîner la maturation des neurones barbalbumine et donc de mettre en action ces oscillations rapides, et en même temps d'être capable de fournir l'énergie en régulant la traduction des messagers mitochondriaux au niveau de ces neurones barbalbumine. Donc il y a quelque chose ici qui, de mon point de vue, bien entendu, est intéressant, parce que ce sont des facteurs qui pourraient avoir une double action, à la fois de maturation, d'entretien de la maturation, car si je la retire, je démature, pour ça que je rouvre la plasticité, et en même temps, de capable de réguler la fourniture énergétique des neurones dans le système, et donc de participer, je ne sais pas si c'est la conscience, mais quand même, si ça marche ailleurs que dans le système visuel, ça peut être intéressant, et vous avez donc tous ces petits neurones dans toute région du cortex, qui font des bandes gamma, qui ont des oscillations rapides, et qui sont synchronisés, ils peuvent être synchronisés, soit par des systèmes divergents du genre noradrénaline, dopamine, sérotonine, mais aussi par des facteurs qui peuvent venir globalement de la circulation, des hormones d'une certaine façon, qui seraient sécrétées par le plexus choroïde, qui est une structure extraordinairement importante dans notre système nerveux. Voilà, donc j'en arrête là. Je voulais juste quand même rendre grâce aux collègues en France, bien entendu dans mon laboratoire, mais aussi au Japon et à Harvard, à Naples, et à l'Institut Curie et à la Salpêtrière, qui ont participé aux quelques expériences que j'ai pu essayer de replacer dans un contexte plus large, qui est celui, au fond, de comment un cortex apprend à voir le monde et continue d'être capable de voir le monde au cours de sa vie adulte, jusqu'à ce que, évidemment, la bascule dans le néant ne nous guérisse définitivement de tous nos petits désordres. Voilà. Je vous remercie.
C'était Alain Prochian, il comparait l'évolution de Sapiens avec le chimpanzé, une conférence qui avait lieu dans le cadre de colloques récurrents intitulés « Regards sur l'homme contemporain » dont la session portait ici sur la naissance, l'émergence et la manifestation de la conscience. Colloque qui avait lieu, je le rappelle, à la Fondation Del Duca de l'Institut de France le 5 décembre 2012. Restez à l'écoute de nos retransmissions en téléchargeant dès maintenant les autres interventions de cette journée. Retrouvez Pierre Buzer, neuroscientifique, Philippe Guillemant, physicien, le philosophe Jean Béchler et le paléontologue Henri de Lumley. Merci de votre écoute.